Voilà. On va faire seulement quelques versets dans le dans chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Je vais commencer en les lisant. C'est le verset 12 à 15. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail et soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. La semaine dernière, dans le texte précédent, nous avons parlé du retour de Jésus. C'est tout un texte qui parle du retour du Seigneur, de la résurrection des croyants. Et nous avons dit qu'il n'existe pas de texte dans le Nouveau Testament qui parle du retour de Jésus sans que dans le même texte on dit « Donc, comment devez-vous vivre maintenant à la lumière de cet événement ?» Et donc nous avons vu par deux fois l'exhortation « Encouragez-vous les uns les autres. » Parce que, à la lumière de notre espérance, nous avons de quoi nous encourager les uns les autres à tenir bon et de marcher tous les jours avec le Seigneur. C'est ce qu'on a vu donc la semaine dernière. Aujourd'hui, je voulais que l'on réfléchisse un peu à l'Église, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure dans la présidence, nous sommes comme un petit îlot, parfois, on a l'impression, dans la société. Et dans la Bible, il y a souvent cette notion d'un peuple en exil. Donc, loin de son pays, en quelque sorte. Et dans Philippiens 3, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais dans Philippiens 3, nous lisons deux versets qui nous montrent cela en quelque sorte dans le cadre de ce qu'on a vu la semaine dernière du retour de Jésus. Donc c'est Philippiens 3 qui fait un petit peu le lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans Philippiens 3, les versets 20 et 21, nous lisons « Quant à nous, notre droit de cité, notre qualité de citoyen, est dans le ciel. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Donc, voilà, on attend celui qui vient de notre pays et nous sommes comme des exilés sur la terre. C'est un leitmotiv qui traverse les Écritures, cette notion d'exil. Il y a un psaume très émouvant, le psaume 137, qui parle de l'exil comme les Juifs à Babylone. Je vais lire deux ou trois versets. Il dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous y avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Et là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns de vos chants de Sion. Mais comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Donc, dans l'Ancien Testament, c'était inconcevable parce qu'il était loin de Jérusalem. Seulement, il y a une différence pour nous. Nous pouvons chanter des chants sur une terre étrangère. Nous sommes là, exilés, mais nous pouvons quand même chanter parce que nous ne sommes pas attachés à un lieu. Nous sommes le peuple de Dieu réparti sur toute la terre et nous pouvons justement chanter. Alors, quelques versets du Nouveau Testament qui en parlent. C'est dans Hébreux 11. Déjà, Hébreux 11, 13. Qui parle de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, et qui dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc voilà, nous sommes comme des étrangers, on est en train de faire un pèlerinage, ce n'est pas un pèlerinage géographique, on va pas vers un lieu, mais on fait un pèlerinage chronologique. Parce qu'on vit notre vie, et ce pèlerinage, c'est notre vie, et on salue de loin, comme c'est marqué, ce qui était promis, on le voit, on le salue de loin, et en attendant, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et notre voyage, c'est le voyage de notre vie. Pierre reprend le même vocabulaire dans sa première épître, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 1, et puis au chapitre 2, verset 11. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, c'est vrai qu'ils étaient dispersés et étrangers parce qu'ils n'étaient pas en Israël, à Jérusalem. Mais je pense que le vrai sens, c'est quand même dans le chapitre 2 et le verset 11, quand il utilise un autre terme. Il dit, bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Donc nous sommes des résidents temporaires. Notre temps sur cette planète est limité dans le temps. Oui. Peu de personnes deviennent centenaires. Donc on a une certaine durée de vie. Donc nous sommes des résidents temporaires et même étrangers sur la terre, parce que nos valeurs, ce que nous croyons, n'est pas le même que la cité autour de nous. Donc nous faisons partie de la cité de Dieu qui est dans les cieux, et nous sommes, une autre expression qui est utilisée dans les Philippiens, nous sommes comme une colonie de Dieu dans ce monde. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres, et je vais revenir à cela. Et dans ce contexte, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc je lis les versets précédents, le verset 11, où Pierre écrit, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé, des ténèbres à ces merveilleuses lumières. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Donc voilà. On n'a pas toujours fait partie de ce peuple. Il fallait mettre notre confiance en Jésus. Et donc on n'a pas toujours été dans cette lumière. On était dans les ténèbres. On ne faisait pas toujours partie du peuple de Dieu. Maintenant, on fait partie de ce peuple si on est chrétien. Parce que ce peuple, c'est un peuple racheté afin de proclamer ses louanges. J'insiste un peu pour faire l'éloge de Dieu. Je reviens à ce vocabulaire. Donc, on fait l'éloge de Dieu. On est là pour cela. Entre parenthèses, je dis ça parce que parfois, dans les églises évangéliques, si on dit louange, on voit uniquement musique. Alors qu'on peut louer Dieu de beaucoup d'autres façons, par nos paroles, par des poèmes, par notre témoignage, par nos paroles, faisant un dessin ou je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de moyens de faire l'éloge de Dieu. Donc, je rattache cela donc à ces versets de la semaine dernière, encouragez-vous les uns les autres. Dans ce contexte, le contexte qui est à la fois du retour du Seigneur, mais en attendant ce retour, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, il y a deux choses qui sont mentionnées dans ce chapitre de 1 Thessaloniciens 5. Je vous invite à revenir à notre texte. On va rester plutôt dans ce texte maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il y a deux choses qui sont mentionnées. La première chose, c'est que Dieu établit des responsables pour ce peuple en exil. Donc, ce texte dit, « Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. » Parce que un peuple, un groupe quelconque, il faut toujours qu'il y ait quelque part des responsables, des leaders. L'anarchie qui dit « chacun fait ce qu'il veut », un groupe ne peut pas vivre comme cela. Quel que soit le niveau, que ce soit la nation, que ce soit la ville, que ce soit une association avec un président, il faut toujours qu'il y ait des personnes reconnues pour diriger le groupe. Autrement, c'est un peu l'anarchie, comme j'ai dit. Donc, ici, on dit donc qu'il y a des responsables pour ce peuple en exil. Et il parle donc de ceux qui y dirigent. Olivier Reber en a un peu parlé lors de notre week-end à Corny. C'est toujours un peu compliqué hein, quand on fait partie de ces responsables d'en parler. On prêche pour sa cause, en quelque sorte. Mais bon, vous me pardonnerez, il faut quand même. D'ailleurs, il y a plusieurs expressions qui sont utilisées dans le Nouveau Testament. Pour ses responsables. Ici, on dit ceux qui vous dirigent, et ça me fait penser à Hébreux 13, où le mot utilisé est conducteur. Donc, si on traduit conducteur en anglais, ça fait leader, parce que c'est la personne qui conduit. Donc, c'est le conducteur, les conducteurs. Un autre terme utilisé, ce sont les anciens. Bon, les anciens, ça fait joli, en fait, le mot grec veut dire les vieux. Hein. C'est ça le sens. Hein. Bon, je suis ancien, oui, mais je suis vieux. C'est autre chose. Mais en fait, c'est un vocabulaire tiré de la synagogue. Parce que dans les synagogues, il y avait les anciens. C'était des personnes plus âgées qui avaient acquis une certaine sagesse. Donc, je sais que dans certains pays du monde, en Afrique par exemple, bon, on pense que les vieux ont beaucoup de sagesse. Dans les pays européens, on a l'impression qu'après 35 ans, on ne comprend plus rien. J'exagère un peu. Mais c'est vrai que les anciens ont de la sagesse. Donc, c'est un vocabulaire tiré de la synagogue. Le troisième terme, c'est évêque. Bon, selon les anciennes traductions de la Bible, on disait évêque. C'est un mot que j'évite parce que en fait le mot évêque est maintenant utilisé donc dans l'Église catholique pour le responsable au niveau diocèse. Donc forcément les gens peuvent, si je me présente devant le maire pour dire je suis l'évêque de Paris Cardinet, ils risquent de ne pas comprendre. Mais en fait le mot en grec veut dire épiscopos, celui qui surveille. Donc dans certaines traductions maintenant, mais surveillant, parce que c'est le sens du mot évêque. Le surveillant qui veille sur le troupeau, en quelque sorte. Donc, je préférerais le mot surveillant, mais j'ai mis l'ancien mot sur le slide. Ce qui est intéressant d'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant que dans l'Église primitive, on utilisait tous ces termes de façon indifférente. Parfois on disait conducteur, parfois on disait surveillant, parfois on disait ancien. Et je tire la conclusion qu'il n'y a pas de terme sacré pour cela, et on peut utiliser un terme de nos jours aussi, parce que le surveillant dans le monde antique, c'était le responsable, par exemple, d'un syndicat d'orfèvres, hein, comme dans les Actes, ou la synagogue, c'était le terme religieux. Moi, j'aime bien le terme responsable, c'est un peu notre mot français, qui a un sens très profond. Le responsable répond à quelqu'un et répond de ses actes. Donc le responsable, c'est un terme très fort, hein, au sens propre de ce terme. Puis le quatrième mot qui est parfois utilisé, c'est le mot pasteur. Dans Éphésiens 4, on dit pasteur et docteur ou pasteur et enseignant. Et ce terme-là faisait partie du vocabulaire de l'Ancien Testament aussi. Pour les rois étaient les bergers du peuple. Et même Dieu, par exemple, dans le psaume 23, Dieu est le berger. Et Jésus est dit le bon berger. Donc on peut dire, en se basant indirectement sur 1 Pierre 5, que les pasteurs sont des bergers, même des sous-bergers, sous la responsable du vrai berger qui est Dieu. Donc voilà tous ces termes. Et si vous regardez bien dans les textes bibliques, et ça je trouve très intéressant, ces termes sont toujours, je ne vois pas pratiquement, je vois pas d'exception, toujours au pluriel. Toujours au pluriel. Parce que finalement, c'est une certaine protection de l'Église qu'il existe une équipe. Parfois, on parle aujourd'hui dans les églises évangéliques d'équipe pastorale. L'équipe pastorale, bon, chez nous, il y a deux personnes qui sont reconnues dans l'équipe pastorale, c'est moi et Michel. Donc nous formons l'équipe pastorale. On aimerait bien que le Seigneur nous donne d'autres pour travailler avec nous. Mais voilà, ça c'est l'équipe pastorale actuellement. Mais quand il y en a plusieurs, il y a deux avantages. D'une part, on se complète chacun avec des dons différents. Et d'autre part, c'est une protection contre la dictature. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une seule personne qui soit le dictateur dans une église. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit deux choses. D'abord, il s'adresse à toute l'église et il dit, c'est à chaque chrétien de les apprécier et même de les aimer. Verset 13. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux. Aimez-moi. C'est biblique, hein? C'est marqué là. Nous apprécier et nous aimer. Donc voilà, c'est le rôle de tous les chrétiens. Parce que dans un autre texte, dans les Hébreux, il dit bah, c'est difficile de faire ce ministère si on n'est pas apprécié, en quelque sorte. Hein. C'est difficile. Hein. On doit rendre des comptes, en quelque sorte, pour cela. Et puis, aux responsables, on nous demande de faire deux choses. De travailler. Le mot revient deux fois, et d'avertir. Donc travailler, verset 12, reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, et puis verset 13, à cause de leur travail. Bon, certes, probablement, je consacre plus d'heures que Michel, parce que c'est mon rôle un peu pastoral, mais il faut penser que Michel doit aussi, malgré son travail séculier, préparer aussi des messages, il se réunit avec moi, on prie pour vous, etc. Donc c'est un travail supplémentaire à ce qu'il fait, on va dire, donc par rapport à son travail, gagne-pain. Donc voilà, à chaque chrétien d'apprécier les responsables, des aimés, et aux responsables de travailler et d'avertir. Et de tous les rôles des responsables, c'est le plus difficile. Parce que tout le monde aime bien qu'on les caresse dans le bon sens, mais dire à quelqu'un, là je pense que tu te trompes, là je pense qu'il faut faire attention, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Mais on le fait en demandant que les gens nous aiment quand même, nous apprécient quand même. Donc voilà, ça c'est la structure, on va dire, de notre peuple étranger et voyageur sur la terre. Maintenant, pour les versets 14 et 15, Paul s'adresse à l'ensemble de l'Église. Donc Dieu compte sur chacun pour l'encouragement mutuel. On l'a déjà vu, comme j'ai dit, par rapport au retour du Seigneur, encouragez-vous les uns les autres. On est tous là pour nous encourager les uns les autres. C'est le rôle de chacun. On a souvent dit avec un brin d'humour que certaines personnes ont un ministère de découragement, qui ont toujours le petit mot critique, toujours. Mais normalement, on est là pour nous encourager les uns les autres. Et Paul demande à chacun de faire un certain nombre de choses. On ne peut pas simplement dire ça, c'est le boulot de l'équipe pastorale. Chacun a ce rôle. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, d'avertir les gens en cas de désordre. Ça, c'est difficile. Moi, je dirais, avec sur le plan tout à fait pratique. Parfois, il vaut mieux peut-être, dans certains cas, venir discuter avec l'équipe pastorale avant d'aller voir quelqu'un pour dire « j'ai quelque chose que je dois te dire » pour être sûr que je comprends bien la situation. Cela dit, et ça a déjà été vécu dans notre église et j'en suis content, quelqu'un, il s'invite et lors d'un repas, ils avertissent la personne sur le chemin que cette personne prend, gentiment, entre amis, parce que c'est normal de nous avertir des uns les autres en cas de désordre, comme je dis, désordre, la désobéissance à Dieu. Deuxième chose, c'est de réconforter, ma traduction dit les abattus, je dirais en français courant plutôt aujourd'hui, les décourager, de réconforter les décourager. Parce qu'on passe tous par des moments de découragement et il suffit des fois que une petite phrase de quelqu'un, ça aide pour réconforter. Par exemple, je vois que tu passes par un moment difficile, sache que tous les jours cette semaine je vais prier pour toi, ou quelque chose comme ça. Ou bien simplement, tu es découragé, mais ben, je suis content de tout ce que tu as déjà apporté ici, ou quelque chose comme ça. Il y a des petites paroles encourageantes que l'on peut prononcer. Soutenir les faibles. Je dirais que quand on se sent faible, on se sent souvent très seul. Donc c'est la solitude qui pèse et qui fait qu'on est faible. Donc je dirais soutenir les faibles, c'est-à-dire on est ensemble. On est ensemble. Là encore, si on pense que quelqu'un passe par un moment de difficulté, de faiblesse, de prendre un rendez-vous, d'aller boire un café ensemble, ou de faire quelque chose, de passer du temps, d'encourager. C'est tellement, tellement important parce qu'on est un peuple. Je lisais l'autre jour, je devais écrire une petite introduction pour un livre, on m'a demandé de faire ça, justement sur la question des responsables dans une église. Une petite phrase dans le livre qui m'a plu en disant, voilà, on se retrouve dans une église avec cette nouvelle étrange et merveilleuse que nous avons un sauveur, et que nous sommes un peu à part dans ce monde, et on va être solidaire, et on va se dire, mais comment tu le vis, et moi comment je le vis, et l'autre personne dit, mais dans telle ou telle situation, qu'est-ce que tu ferais? On parle, le Seigneur nous a donné des langues, et ça, c'est aussi soutenir les faibles qui ont envie un peu de lâcher pour dire, donc, tiens bon, je suis étonné du nombre de fois dans le Nouveau Testament, on nous dit de tenir ferme et de tenir bon. Pour moi, je vois toujours une mêlée au rugby, hein, quand ça veut dire on veut nous repousser, mais on tient bon, on ne bouge pas. C'est ça, tenir bon, tenir ferme. Et puis, être patient envers tous. Patient. Parce que le Seigneur n'a pas fini ce qu'il est en train de faire dans la vie de cette personne. Et j'ai toujours aimé une petite phrase, enfin, plutôt une longue phrase, de John Newton, que certains connaissent, hein, qui était l'ancien esclavagiste au XVIIIe siècle, qui s'est converti. Donc il a écrit des cantiques, y compris Amazing Grace, pour ceux qui connaissent. Et voilà ce qu'il a dit sur sa vie. « Je ne suis pas ce que je devrais être. » Je ne suis pas ce que je désire être. Je ne suis pas ce que je serai dans le monde à venir. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je trouve que c'est très fort. Ok, on n'a pas fini. On est en fait un peuple, mais un peuple en chantier. C'est toujours le chantier chez nous. Dans l'église, parce qu'on est en train de construire notre vie, et n'oubliez pas ce que j'ai dit il y a 15 jours, non, même la semaine dernière, édifiez-vous, bon, c'est un mot un peu spirituel, mais ça veut dire construisez-vous. On est en train de construire notre vie petit à petit, donc c'est un chantier. Donc il faut être patient parce que chacun n'est pas arrivé au même point. Et parfois il faut être patient. Mais voilà, on fait partie du peuple, donc on est patient. Veillez à éliminer la vengeance. Verset 15. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. C'est tellement facile. Malgré nous, quelqu'un a fait quelque chose et... Oh, je vais me venger. Au contraire, cherchez à faire du bien et il y a deux mots que je voudrais souligner. Recherchez toujours le bien et recherchez le bien entre vous et envers tous les hommes, donc au sein de la communauté et à l'extérieur. Donc de faire du bien. Ça veut dire que ne pas faire le mal ne suffit pas. Je pense à cette expression dans Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens 3, il me semble, je peux te tromper, où Paul dit, alors, les gens qui étaient voleurs, qui dérobaient, qui ne dérobent plus, est-ce que ça suffit? Non. Il dit, mais qui travaillent de leurs mains pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc, s'abstenir du mal ne suffit pas. Faire du bien, c'est ça que le Seigneur nous demande. Et je vais terminer donc en lisant un texte de parole de Jésus qui nous encourage aussi dans ce sens. C'est dans Matthieu 5. Matthieu 5 et les versets 43 à 48. Matthieu 5, 43 à 48, je vais juste le lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ce qui n'est pas dans le texte d'ailleurs. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, donc par exemple au sein de l'Église, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Quand votre Père Céleste est parfait. Donc on vise cette perfection, je dis, on est en route pour faire du bien autour de nous. Et j'aimerais que l'on termine avec un chant.